Maurice Renard, Jean Muret. Au retour d'un voyage en Italie, Louis le Blois, passant par la Savoie, acquit le château d'Abricieux. Je l'accompagnais. Il avait fait arrêter sa puissante voiture pour admirer un instant le très beau spectacle des vieilles tours carrées et des grands toits de ruines couronnant une hauteur mêlée de vignes, de bouquetaux et de rochers qui constituait l'un des contreforts du mont du Cha. Midi sonnait. Une auberge nichait là. Nous y déjeunâmes. On nous dit que le château était à vendre. Louis voulut le visiter. Nous trouvâmes une bâtisse aux épaisses murailles dont 4 siècles n'avaient pas compromis la solidité. D'en bas, lorsque nous l'avions vu se détacher sur le fond gigantesque de la montagne, Abricieux nous avait paru petit. Au vrai, les pièces en étaient nombreuses et certaines très vastes. Toutes, malheureusement, se montraient dépouillées des vieux meubles qu'on avait, paraît-il, vendus récemment après le décès d'une demoiselle âgée et pauvre, morte sans héritier. Les planchers étaient parfois rustiques, parfois précieusement marquetés. Les plafonds, à poutrelles serrées, avaient une rare élégance. Par les fenêtres aux embrasures profondes, la vue plongeait vers les magnificences de la vallée où rencontraient les pentes abruptes du Mont. Un jardin en terrasse et en pelouse inclinée entourait le manoir. Il y avait d'admirables vieux arbres, des charmilles centenaires, et tout cela ne laissait pas que d'être infiniment séduisant. Louise Lebois s'en rendit acquéreur pour un prix des plus modiques. Mon ami n'est pas de ces gens qui jugent indispensable de transformer une maison sous prétexte qu'ils en sont devenus copropriétaires. Le charme d'Abricieux résidait surtout dans ceci que rien ne semblait y avoir été modifié depuis l'ancien temps. Louis le comprit et résolut simplement de meubler son château en vieillerie régionale qui restituerait à ce bel intérieur son aspect de XVIIIe siècle. Abricieux avait longtemps appartenu à la famille éteinte des comtes de Chanars. Peu de paperasse touchant son passé était parvenu jusqu'à nous. Louis me demanda de faire des recherches sur les Chantaz et de lui procurer tous les documents qui, de près ou de loin, pourraient concerner son nouveau domaine. Familier des archives et des bibliothèques, où mon destin m'enchaîne, je ne perdis pas de vue la mission amicale dont j'étais chargé. Mais il advint que pendant longtemps, je ne découvris à peu près rien. Et puis un jour, je m'invitai à dîner chez Louis Lebois, en son hôtel d'Auteuil, et au dessert, je lui dis que j'avais trouvé une indication fort curieuse. Il se mit à rire et me confia qu'il s'attendait à quelque chose comme cela depuis le commencement du repas. « Te rappelles-tu qu'il y a, lui dis-je, dans une chambre, le château d'Abricieux, dans l'une des plus belles chambres, un mur de briques? » Louis réfléchit un instant, avec ce sourire si particulier des gens qu'on intrigue et qui en décerne délecte. « Oui, j'ai suivi assidûment les travaux de remise en état, me répondit-il. Je puis l'affirmer qu'il y a un mur de briques, non pas dans une chambre d'Abricieux, mais au fond du cabinet qui atteint à la chambre de la cour tour du sud-est, c'est-à-dire la meilleure, la plus agréable, celle qui, sur la tourne probabilité, finit toujours la chambre des maîtres. À merveille. Eh bien, mon cher, il y a un mort derrière ton mur de briques. Pas possible. s'exclama Louis, sans manifester beaucoup d'effroi. « Raconte vite !»« Il y a, continuai-je, le cadavre, ou plutôt le squelette, d'un certain joli cœur, marquis d'Ambremélion, qu'un comte de Chantaz surprit une nuit dans la chambre de la comtesse, son épouse. Et il l'a emmuré de ses propres mains. Oui, après l'avoir congrûment ligoté, n'en doutons pas. Oh, voilà du classique, j'aurais préféré une drame plus originale. Oh, tu es difficile. Et comment as-tu appris cela? Sans le chercher, bien entendu. Au manuscrit de la Bibliothèque nationale. Un cahier m'est tombé sous la main. Je ne sais quel amateur d'anecdotes y a couché par écrit bon nombre d'historiettes. Et celle qui t'intéresse est rédigée, comme tu vas le voir. J'en ai pris la copie, écoute-moi. Je me souviens que ma grand-mère contait l'histoire d'une dame savoyarde nommée Madame la Comtesse de Chantaz, qui était morte folle dans son château montagnard parce que son mari non seulement avait enclos tout vif son amant derrière un mur de briques, mais qu'il obligeait cette dame à continuer d'occuper la chambre où il l'avait prise en faute et punie par le spectacle de sa vengeance. La pauvre femme y mourait de peur. Elle supporta néanmoins ce supplice pendant quelques mois, sans trop de dommages pour son entendement. Mais une nuit qu'elle entendit du bruit derrière les briques, elle perdit la raison, ayant cru que le mort s'était mis à bouger. Ce qui d'ailleurs est certainement vrai, car un mort en passe de devenir squelette ne saurait y attendre sans que ses os ne tombent, d'où, fatalement, quelques bruits. Monsieur le comte de Chantaz mourut bien plus tard, confessant in extremis avoir fait disparaître le larron de son honneur. Chacun, dans ce temps-là, savait bien qu'il s'agissait du marquis d'Arbléon, beau cavalier de qui la famille voulait faire croire qu'il voyageait aux Amériques et ne s'y trouvait pas, point mal, mais puisqu'il n'en revenait pas. Ouais, mais à d'autres. C'est un voyage aussi que M. de Chantaz avait simulé pour revenir à l'improviste et confondre les coupables en plein minuit. Tout cela se sut à l'époque, mais comme le comte était dans son droit de mari et surtout qu'on craignait sa violence et sa force, l'affaire n'eut jamais de suite. M. d'Ambléon et Mme de Chantaz passait pour avoir usé d'un complice audacieux, tortu, bossu, qui était au service de monsieur le comte, et qui, la nuit de briques, eut le flair de déguerpir avant l'aube, pour demander sans demander son reste, en quoi il agit avec bon sens. Ce qui me frappait, quand j'étais enfant, que ma bonne grand-mère comptait cette horreur. C'est certes l'emmurement, mais c'était davantage encore la vision de cette pauvre vieille comtesse dressée tout en sueur sur sa couche et tendant l'oreille du côté de la muraille de briques. Oh, j'en avais moi-même le frisson. Et ceci est sans doute la cause que je me rappelle l'histoire avec quelques précisions. « Eh bien, dit Louis le Blois, quand ma lecture fut terminée, n'avons qu'une chose à faire, partir pour Abricieux, qui est probablement le château en question, abattre le mur de briques, et donner enfin au lamentable reste du marquis d'Ambléon la sépulture chrétienne à laquelle ils ont droit. » Nous partirent donc, curieux de vérifier si l'homme aux anecdotes avait dit vrai. D'autres avaient dit plus vrai que lui. C'étaient les parents de M. d'Ambléon, lorsqu'ils prétendaient que leur marquis continuait de vivre sa vie aux Amériques, Il y avait bien, en effet, des ossements derrière le mur. Mais point était utile d'être ostéologue pour voir que c'était là la triste squelette de l'astucieux tordu bossu.